Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan McFadden-Waitzer. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Qui est de l'équipe d'organisation nationale de Ressources en mouvement. Ressources en mouvement, c'est une communauté de jeunes disposant de privilèges de classe qui œuvrent à la redistribution de la richesse, notamment. On va en parler en détail. Ça va bien, Jonathan?
Assez bien, oui.
Oui, malgré tout.
Malgré tout, c'est ça, oui.
Malgré la mi-novembre en session apocalyptique. Dans cet épisode, on va discuter du rôle des alliés qui se mobilisent en solidarité pour la Palestine et on va parler des jeunes plus privilégiés qui luttent pour des changements systémiques au Canada. Bienvenue à Détour. Jonathan, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui parce que on vit un moment très important cet automne sur la question de comment être un ou une alliée dans les mouvements sociaux. Je pense que beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là en ce moment, avec le temps, ça fait partie des choses sur lesquelles tu réfléchis pratiquement à temps plein. Ressources en mouvement a des chapitres à Montréal, à Toronto et à Vancouver.
Et plus récemment à Ottawa.
Et à Ottawa maintenant. Donc, 4 chapitres représentent plus de 200 jeunes. Jeunes étant définis comme en bas de 40 ans, je pense.
Oui, assez large.
Oui, on a une définition large des jeunes ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu d'abord situer les gens qui nous écoutent et nous en dire un peu plus sur la mission de Ressources en mouvement?
Oui, tout à fait. Notre travail est inspiré par un groupe aux États-Unis qui s'appelle Resource Generation, qui font ce travail depuis plus qu'une vingtaine d'années. L'idée de base, c'est que tout le monde tient à gagner d'une société plus équilibrée. Je vais tout de suite challenger un peu le cadre de l'allié parce que ce qui est fondamental dans notre travail, c'est qu'on encourage nos membres à chercher nos propres intérêts dans ce travail-là. Donc, de ne pas engager à travers de l'altruisme, mais de vraiment comme trouver qu'est-ce que moi j'ai à gagner dans ce monde qu'on envisionne ensemble. Et donc, ça prend beaucoup d'éducation politique, de travail personnel. Puis on fait beaucoup de ça parmi nos membres. On regroupe des jeunes personnes avec le privilège de classe qui veulent œuvrer pour le changement social puis pour la justice sociale. Puis de déconstruire les mythes dans lesquels on est socialisé quand on a de ce privilège-là.
Déjà, dans ce que tu as dit d'emblée sur essayer d'ouvrir des conversations avec les gens pour que ça ne soit pas compris comme un acte de générosité, de travailler au changement social, mais quelque chose qui est dans notre intérêt propre. Je pense que ça fait un bon lien avec ce dont on voulait parler plus précisément aujourd'hui, parce qu'une des choses que j'entends répéter vraiment beaucoup sur les médias sociaux, c'est « We're not freeing Palestine, Palestine is freeing us ». Puis je pense que ce que les gens veulent dire par là, c'est que en ayant un regard sur ce qui se passe là-bas, ça ouvre notre compréhension de toutes les structures de pouvoir dans le monde, ça ouvre notre regard sur ce qui se passe, les déséquilibres et la violence des systèmes politiques dans lesquels on vit. Et en faisant ça, ça change la personne qu'on est, le genre de priorité aussi qu'on veut avoir dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent, je pense, depuis quelques semaines sur qu'est-ce que ça veut dire de s'impliquer et de prendre position sur tout ce qui concerne Israël et la Palestine. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont sensibles à ce qui se passe là-bas, mais qui se disent « Ah, il y a un risque à la prise de parole » ou « Ça va être trop compliqué » ou « Il y a un coût à ça ». Par exemple, notamment sur les réseaux sociaux, il y a les questions d'apartheid, il y a les questions de génocide, des questions de colonialisme. Ouais. Selon toi, c'est quoi le coût de la parole d'une personne non palestinienne par rapport à la Palestine? Et c'est quoi le coût de la parole dans les communautés juives pour le soutien aussi à la Palestine dans un deuxième temps, parce que ça fait aussi partie de ce que tu es, de la manière dont tu t'impliques en ce moment et depuis plusieurs années dans ce mouvement-là.
Tout à fait, ouais, je suis une personne qui vient d'une famille riche, puis je suis aussi une personne juive qui vient d'une famille juive. Il y a des tensions, puis des peines vraiment profondes qui surviennent dans les familles juives en ce moment, puis les communautés juives en ce moment. Et je dirais que... Je comprends d'un côté que, genre, en tant que peuple, on a survécu plusieurs tentatives de génocide, puis on est obsédé par l'idée de la sécurité, de notre sécurité. Ce que je trouve vraiment comme tragique, c'est que notre obsession soit ciblée autant vers notre propre sécurité au coût d'une compréhension, puis de l'empathie, puis de la solidarité surtout par rapport à la sécurité des autres communautés, des autres peuples. Je suis comme vraiment incroyablement encouragé puis motivé par le rising tide de jeunes personnes juives à travers le monde, puis ici au Canada spécifiquement, qui se prononcent sur la question de la liberté de la Palestine en ce moment. Ce qu'on dit souvent au sein de Ressources en Mouvement, c'est fondamentalement important de réfléchir à c'est quoi exactement ce coût pour nous par rapport au coût que cette même prise de position représente pour les autres personnes qui n'ont pas notre privilège.
Des milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues pour dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza. Parmi eux, des centaines de Juifs venus apporter leur soutien à la cause.
Nous ne pourrons pas ignorer ce que Israël fait, ce que le gouvernement du Canada fait en appuyant à Israël. Ils disent qu'ils font ça dans notre nom, comme pour aider les Juifs, et nous nous disons absolument non, c'est pas vrai.
À 82 ans, cette survivante de l'Holocauste a elle aussi décidé de se joindre à la foule pour crier sa colère. Les Juifs ont été victimes de génocide et maintenant, ce sont les Palestiniens qui en sont victimes. Et tout cela au nom des Juifs. C'est un crime, dit-elle. Nous n'avons rien contre la religion juive. Nous nous opposons au sionisme. Ce que fait Israël, c'est un génocide, clame ce manifestant. Des dizaines de manifestations similaires ont eu lieu à travers le pays et ailleurs dans le monde samedi, comme à Ottawa, Washington, Londres et Paris. Nous espérons que le gouvernement canadien nous entende, qu'il demande un cessez-le-feu immédiat et impose un embargo sur les armes qu'il vend à Israël, explique l'une des organisatrices du rassemblement.
Sans vouloir nécessairement faire une hiérarchie des difficultés, mm-hmm. Il y a aussi des différences dans le coût d'une prise de parole. Je remarque que c'est particulièrement, même s'il y en a de toutes les générations, mm-hmm. Plus les personnes plus jeunes dans les communautés juives qui tendent en ce moment à être mobilisées mm-hmm. pour la Palestine, et ça crée sûrement des déchirements à l'intérieur de la communauté. Et je pense que c'est important au moins de le nommer parce que ça peut être ça aussi le coût d'une prise de parole sur un enjeu comme celui-là.
Oui, c'est vrai. Une chose que moi, j'ai vécue récemment, c'est un vrai comme réchauffement de cœur causé par le nombre de personnes aînées juives dans ma communauté antisioniste en ce moment, puis la force et la présence que ces personnes ont dans notre communauté, puis leur capacité de comme tenir émotionnellement les personnes plus jeunes qui vivent des clivages dans nos familles. Puis ça, c'est quelque chose que je vois pas reflété, en fait, dans les plus larges communautés riches dans lesquelles on mobilise auprès de Ressources en Mouvement. Et je pense que le fait que je me retrouve entouré de tellement de personnes plus vieilles, antisionistes, radicales, juives en ce moment. Finalement, c'est pas étonnant. Dans les communautés juives, il y a toujours eu cet héritage de solidarité
oui.
et de radicalisme. Puis j'ai dit tantôt que je trouve ça tragique que genre la majorité des communautés juives ont comme vraiment ciblé notre propre sécurité au coût de la solidarité.
C'est très important. Puis je pense aussi que ce que tu nommes, c'est que lorsqu'on parle de, entre guillemets, jeunes privilégiés ou de, encore une fois, le mot allié qui est très compliqué, c'est qu'on ne parle jamais en catégorie d'absolu et qu'on peut tous avoir des situations, c'est très situationnel, hein, des situations où le coût de notre prise de parole ou le coût de notre engagement va être moins élevé pour nous que pour d'autres. Puisque ça fait plusieurs années que tu es impliqué dans ce mouvement-là, je voulais te demander aussi si tu remarques un changement dans la manière dont, au Canada, de manière plus générale, on comprend Israël et la Palestine. Parce que quand même, dans les années 2010, ici, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, ouais. il y a eu le mouvement I Don't Know More, mm-hmm. il y a eu la mobilisation contre, en 2017, contre le Canada 150, ouais. puis toute la question du colonialisme au Canada est ressortie. Mm-hmm. Est-ce que tu vois que ça change ou ça donne des outils pour que les gens puissent comprendre aussi ce qui se passe avec les peuples palestiniens?
Tout à fait, oui. Je pense que à travers ces derniers mois, on commence à voir la consolidation d'un nouveau cadre dans lequel on discute ce conflit. Puis justement, je pense qu'on commence à laisser de côté le cadre d'un conflit qui a été le cadre dominant pendant des décennies. Puis l'idée d'un conflit mutuel, un conflit plutôt équilibré entre deux peuples ennemis. Et grâce au grand travail de sensibilisation puis de mobilisation qui a été fait par les mouvements que tu viens de nommer, je pense qu'on commence à accepter le cadre de colonialisme pour décrire les contours fondamentaux de cette situation.
Lorsqu'on utilise le mot colonialisme pour parler d'Israël, ça suscite souvent énormément de réactions. On peut tout à fait comprendre le lien historique de plein de personnes juives et au niveau de la langue, de la religion, de la culture avec la terre et comprendre le colonialisme comme système.
Effectivement.
Et je pense que souvent, la critique, c'est ça. C'est comme si on se met à parler de colonialisme, c'est comme si la réponse va toujours être « oui, mais les personnes juives ont un lien avec la Palestine, comment est-ce que ça peut être des colons? » Je pense que c'est important de faire cette distinction-là, et je la refais en ondes parce que c'est tellement sensible. Quelle distinction tu crois qu'il serait important de prendre le temps de nommer entre cette critique-là du mouvement sionisme puis l'antisémitisme, qui est aussi quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces outils-là pour être capables de mieux prendre la parole là-dessus.
Oui, tout à fait. Avant de toucher sur ça, je veux juste ajouter un tout petit peu plus sur cette question de colonisation.
Oui.
Le mouvement sioniste, je ne vais pas dire le peuple juif, parce qu'il y a toujours eu de la résistance au projet sioniste parmi les communautés juives, mais le projet sioniste, en lien avec l'Empire britannique, a fait le choix de coloniser la terre de la Palestine au nom du peuple juif. Et c'est à cet acte de colonisation qui répond le mouvement antisioniste. Puis moi, je dirais aussi que c'est cet acte de colonisation qui a rendu le peuple palestinien un peuple autochtone dans cette partie politique de la définition, même si il y a plein de peuples qui ont des liens avec cette terre-là depuis le temps immémorial. Mais en ce moment, il y a un peuple qui a subi le colonialisme par l'État qui continue à dominer le territoire actuellement.
C'est tellement important de faire ces nuances-là. Plus les gens maîtrisent le vocabulaire pour comprendre les catégories politiques ici même en Amérique du Nord, plus la compréhension des dynamiques au Moyen-Orient change aussi en conséquence.
Je suis tout à fait d'accord. Le projet sioniste, ça reste sur une croyance que la sécurité pour un peuple vient d'avoir un État que ce peuple contrôle. Et d'après moi, si on reste pogné dans cette logique-là, il n'y aura jamais une solution pour le territoire palestinien. Parce que c'est un territoire qui ne pourra jamais fonctionner démocratiquement en tant que représentant d'un peuple. Et moi, quand je pense à mon héritage antisioniste juif, les peuples juifs sont des peuples diasporique depuis très, très, très longtemps. Et une des manières dans lesquelles, moi, je trouve le projet sioniste antisémitique, en fait, c'est que ça dévalorise la possibilité d'avoir la sécurité en tant que peuple qui partage un État avec d'autres peuples. Puis ça dévalorise l'histoire, la culture, l'héritage, la brillance des communautés puis des cultures diasporiques juives qui existent partout dans le monde depuis très, très, très longtemps. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis offensé par les efforts du projet sioniste de mettre ensemble l'identité juive et l'identité sioniste. Parce que moi, je fais partie d'un héritage diasporique de solidarité, de partage des territoires, de partage des savoirs, de culture, de relations entre peuples. Et pour moi, cette idée de sécurité qui peut uniquement venir à travers le contrôle d'un gouvernement qui fonctionne uniquement dans le nom de notre peuple, me faire dire que je ne suis pas assez juif parce que je ne tiens pas à cette idée-là, je trouve ça antisémitique en fait.
Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les déchirures douloureuses que ça crée à l'intérieur de la communauté ou des communautés, ce débat-là. Puis je te remercie d'être aussi franc comme ça sur ton point de vue, parce que je pense qu'il y a beaucoup, parfois, de réticence à même avoir ces conversations-là, avoir ces débats-là ou ces explications-là en public, notamment parce qu'il y a une crainte que ça va juste contribuer à de l'antisémitisme si on expose les débats internes.
Tout à fait. Puis je trouve ça tout à fait normal. Depuis quelques mois, j'organise en beaucoup plus étroite collaboration avec le Palestinian Youth Movement puis les personnes militantes palestiniennes. Et on parle beaucoup de ces risques-là. C'est ouais. Genre, de notre côté, en tant que personne militante juive, on vit l'antisémitisme puis on voit genre la montée de l'antisémitisme ouais. dans nos communautés.
C'est justement ce que j'allais te demander, peut-être en terminant. Qu'est-ce que tu as à répondre là? Quelle place prend pour toi la réponse à la peur qui est souvent légitime d'avoir cette montée-là de l'antisémitisme au Canada ici, là, dans les dernières semaines et mm-hmm. dans les dernières années?
Ben, je dirais qu'il y a plusieurs éléments de ça. Il y a tout d'abord, il y a l'antisémitisme qui existe depuis toujours en Amérique du Nord, puis qui est comme une partie fondamentale de l'idéologie de la suprématie blanche. Mm. Ces personnes antisémitiques qu'on sait sont présentes dans notre société profitent de ce moment parce que ces personnes-là sont aussi des racistes puis sont aussi des islamophobes. Donc, pour eux, c'est comme le moment parfait pour passer à l'action antisémitique et islamophobe puis nuire à la puissance du mouvement pro-palestinien. Like, putting the blame on them. Pour réellement faire face à l'antisémitisme qui est une conséquence du projet sioniste, je dirais que les personnes juives ont besoin de faire face à ce projet, puis à le comprendre comme un projet impérial dans lequel on a été impliqué, puis à nous joindre au mouvement de résistance décoloniale pour rendre ce territoire démocratique, puis rendre ce territoire libre et éliminer le régime colonial qui occupe actuellement ce territoire dans notre nom, mais qui n'est pas un régime qui représente notre peuple.
Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui ont circulé en ligne dans les dernières semaines sur les personnes, par exemple, les personnes juives qui sont à New York, à Washington, ici à Montréal ou même à Ottawa, qui sont comme « not in my name ». Puis je pense que l'entrevue qu'on vient de faire, ça peut aider vraiment les personnes à mieux comprendre c'est quoi le raisonnement des personnes qui se mettent de l'avant sur le front comme ça. Et donc, je veux juste te remercier d'avoir pris le temps d'expliciter ça pour les gens qui nous écoutent. C'est vraiment très précieux. Merci pour ça, Jonathan. Jonathan, Détour, on aime toujours prendre un moment de nos deux segments pour souligner quelque chose qui a attiré notre attention ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête?
La chose que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est qu'aujourd'hui, le 25 novembre, samedi, il y aura une mobilisation, une marche à Ottawa, une convergence nationale des groupes pro-palestiniens à 13h sur la colline du Parlement. Et c'est une coalition de groupes qui viennent de tous les mouvements sociaux, y inclut les mouvements syndicaux. Il y a des douzaines de bus qui s'organisent pour amener les gens vers Ottawa. On espère que ça pourra aider à convaincre notre gouvernement à appeler pour un cessez-le-feu permanent et non pas juste cessez-le-feu de 4 jours.
On publie ça le samedi matin, ça se passe le samedi après-midi et ça risque d'être effectivement très gros. Donc, merci de porter ça à notre attention. C'est très bien noté.
Émilie, qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Moi, de mon côté, j'ai vu passer une initiative qui me semble vraiment très prometteuse, puis qu'en fait, depuis que ça a été lancé le 15 novembre, je commence déjà à m'en servir professionnellement. C'est un nouveau site web qui s'appelle unrigged.ca, qui est une espèce de plateforme qui a fait une agrégation de différents médias indépendants régionaux. En français, il y a Pivot et Ababar qui est là-dessus, mais il y a vraiment des médias nationaux, régionaux d'un peu partout au pays qui sont souvent assez petits et qui publient souvent peu de nouvelles, pas nécessairement quotidiennes, et que ça prend beaucoup de temps d'aller essayer de faire le tour de tout ça pour chercher l'information. Ce sont des médias qui ont été très affectés par la loi C-18, et surtout le boycott là, de Facebook et d'Instagram des médias canadiens par la suite. Donc, c'est une initiative qui sert à redonner de la visibilité aux petits médias du pays. Et je trouve ça vraiment intéressant comme initiative. Donc, j'avais envie de vous le souligner. Allez voir unrigged.ca Et vous avez maintenant une espèce de portail, une espèce de Apple News des médias indépendants canadiens. Donc, ça vous permet d'avoir rapidement accès à toutes ces petites publications-là et de voir le travail souvent intéressant qu'ils font, particulièrement, je trouve, dans le journalisme d'enquête, sur des choses qui sont souvent laissées pour compte dans les médias traditionnels un peu plus gros. Donc, franchement, belle initiative, unrig.ca.
Yay! Bien noté.
Le rêve de la classe moyenne tel qu'il se définit depuis 30 ans, ben, il commence à s'estomper.
On assiste à un déclassement de la classe moyenne.
Pourquoi on veut remonter dans le classement? Pour donner un peu de répit à la classe moyenne. Il y a juste un parti à l'Assemblée nationale qui défend la classe moyenne.
An investment in you is an investment in the middle class and in a strong future. And that's what Budget 2023 is all about.
Investing in our middle class. Raising our poorest children out of poverty. That is the only truly progressive economic agenda.
J'entends, dans ton travail chez Ressources en mouvement, tu luttes notamment pour mettre fin aux inégalités économiques au Canada. Mm-hmm. Et c'est un travail de mobilisation, comme on l'expliquait déjà, avec des jeunes qui ont un privilège de classe. Et c'est intéressant parce que au Canada et en Amérique du Nord, de manière générale, à peu près toutes les personnes que je connais qui ont un gros privilège de classe refusent de s'identifier comme ayant un privilège de classe. Et tout le monde s'imagine faire partie de la classe moyenne. J'ai envie de te demander d'abord, c'est quoi le rôle de cette mythologie-là de la classe moyenne dans ton travail? Comment est-ce que tu fais pour faire comprendre aux gens que la classe moyenne, c'est pas tout le monde et qu'il y a plein de gens qui sont des imposteurs dans la classe moyenne?
Ben, j'ai commencé par dire que c'est pas juste ton expérience anecdotale. Il y a aussi des chiffres qui démontrent que c'est bien le cas. Pas ici au Canada, mais aux États-Unis, avec le recensement, ils ont inséré une question par rapport à l'auto-identification en tant que classe. Pour moi, ça résonne beaucoup avec ce qu'on voit dans notre travail, parce qu'un des réflexes qu'on travaille pour comme déconditionner parmi nos membres puis parmi nous-mêmes, c'est le réflexe de se comparer vers le haut et de regarder les gens qui ont comme genre un peu plus que nous on a, puis de normaliser ça et alors de s'auto-définir en tant que genre ce que nous on n'a pas puis que eux autres ils ont.
Ah, OK, je comprends. Donc, l'idée qu'on va s'imaginer toujours un peu plus précaire qu'on est si on ne regarde que vers les gens qui ont plus que nous.
Exactement, oui. Moi et nous, au sein de Ressources en mouvement, on dit souvent que l'échafaudage des inégalités, de la régime actuel d'inégalité, ça reste sur deux mythes. D'abord, la mythe de la classe moyenne universelle ou bien de la société post-classe et ensuite la mythe de la méritocratie. Et donc, quand on fait notre travail personnel ensemble, on passe quand même beaucoup de temps à pratiquer, à partager nos récits personnels, nos récits surtout d'accumulation de richesses personnelles puis familiales, en essayant très concrètement de nommer des chiffres pour éviter de tomber dans la piège de la mythe de la société post-classe, puis aussi de nommer les avantages non mérités qui figurent dans nos histoires d'accumulation de richesses pour challenger la mythe de la méritocratie puis pour contrer la tendance dans la majorité des histoires qui sont racontées par rapport à l'accumulation de la richesse qui donne l'impression que les personnes riches sont riches puis les personnes pauvres sont pauvres grâce à des bonnes ou des mauvaises décisions qui sont faites dans leur vie et non pas grâce à des structures qui existent dans notre société.
Parce que tu organise au niveau pan-canadien. On l'a dit, tu as des chapitres un peu partout au pays et de toute évidence, tu es bilingue. Moi, aussi de manière anecdotique, je remarque des grosses différences et je crois que je ne suis pas la seule dans l'attitude culturelle des francophones et des anglophones par rapport à la richesse. Il y a des choses catholiques versus protestants là-dedans. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a une histoire, notamment coloniale au Canada. Ouais. Là-dedans, est-ce que concrètement, avec les moins de 40 ans avec qui tu travailles, tu remarques encore ces différences-là d'attitude par rapport au privilège de classe et à la richesse entre francophones et anglophones?
Énormément. La première chose à nommer puis à assumer, c'est que même ici au Québec, genre notre chapitre de Montréal, c'est notre chapitre le plus grand parmi tout le Canada. Et c'est un chapitre très majoritairement anglophone.
Encore, hein?
Ouais, toujours. Et même tandis que, genre, nos meetings sont bilingues, puis on a vraiment fait des efforts pour, genre, rendre notre curriculum puis nos activités vraiment bilingues. Et en même temps, je pense que, ben, on a toujours besoin de faire plus d'efforts.
Ouais, ouais.
Il y a ça, mais aussi... Je pense qu'un des challenges qui revient à cette histoire de comme se comparer vers le haut, un des challenges qui est présent parmi tous nos membres, c'est ce challenge de s'identifier avec des ancêtres qui faisaient partie de la classe populaire, puis de ne pas assumer genre le changement.
Le class jumping s'est fait depuis.
Ouais, c'est ça. Puis je pense que genre ce challenge-là, c'est encore plus présent ici au Québec parce que les ancêtres qui faisaient partie de la classe populaire sont beaucoup plus récents, généralement. Il y a beaucoup moins de richesses multigénérationnelles ici au Québec qu'on trouve dans le Canada anglophone.
Oui, mais c'est aussi, je veux dire, moi, je pense à mes cours d'histoire du Québec, c'est comme si même lorsqu'on n'a jamais nos propre famille canadienne-française, et je parle au nous parce que je suis notamment d'origine canadienne-française, quand nos propres familles ne faisaient pas partie de la classe populaire, mm-hmm. c'est comme si le nous du récit collectif historique, c'est que nous sommes un peuple de bûcherons et de porteurs d'eau et d'agriculteurs, voilà. etc. Fait que ce nous-là prend de la place même dans les gens qui... n'ont pas cette histoire-là dans leur histoire familiale ouais. personnelle.
Donc, ce comparaison vers le haut ne fait pas juste sur une base de classe, mais aussi sur une base de culture.
Ouais.
Puis, y a de la comparaison envers la société anglo qui se fait.
Donc, est-ce que dans ton groupe, même à Montréal, tu vas avoir des gens qui... je suppose, je parle en cliché, là, mais je suppose que c'est plus facile d'assumer qu'on a de l'argent si on vient de lignée de Westmount que si... Voilà. On a un parent qui a fait de l'argent puis qui s'achète une grosse maison à Brossard.
Ouais, je dirais peut-être même que c'est peut-être pas que c'est plus facile à assumer, mais c'est plus difficile à nier.
C'est plus difficile à nier.
Ouais.
C'est une bonne nuance. Ouais. Très, très intéressant. Donc, c'est quoi les stratégies particulières? Et là, pas nécessairement pour les francophones, que ce soit d'ailleurs au Québec ou ailleurs au pays, parce que ces dynamiques-là de classe, c'est partout au pays.
Mm-hmm, tout à fait.
Mais les dynamiques particulières que tu mets en place pour aider aux gens à réfléchir leur privilège de classe quand il y a justement ce genre de blocage-là mm-hmm. qui sont en place. Ça peut être souvent le cas, par exemple, pour les familles immigrantes aussi, hein, les gens qui, leurs parents sont partis de très loin, là, sont rendus ailleurs, puis on s'identifie au fait que nos parents sont partis de loin, puis on réalise pas là où on est rendu. Mm-hmm. En fait, il y a un décalage, là.
Oui. Puis, genre, et j'apprécie que tu fasses le pont, là, parce que la stratégie, pour nous, c'est la même. Nous, on fait beaucoup de rassemblements puis de travail en sous-groupes fermés. Puis on crée des espaces pour nos membres qui font partie, par exemple, de la classe moyenne élevée. Puis nos membres qui ne touchent pas, n'ont pas accès à la richesse multigénérationnelle. Nos membres juifs, en fait. Nos membres racisés. On crée des espaces. Et aussi nos membres qui font partie du 1%. On crée des espaces fermés pour que nos membres puissent vraiment comme... se connecter à leur propre vécu, leur propre vérité, puis leur propre intérêt dans ce travail-là. Parce que sinon, ce qu'on trouve, c'est que genre, la comparaison vers le haut, ça continue, puis les récits des membres blanches qui font partie du 1%, puis qui ont accès à la richesse intergénérationnelle, ces récits-là comme, prennent beaucoup de place dans notre collectivité. Et donc, cela fait en sorte que les membres qui ne vivent pas ces réalités-là se sentent marginalisés dans notre mouvement. Et donc, c'est vraiment important de créer des espaces fermés pour que nos membres puissent comme s'ancrer dans des vécus partagés quand même avec plusieurs autres membres, mais des vécus aussi distincts du cliché puis du stéréotype de la personne blanche, riche, héritière, etc.
En terminant avec tout le climat économique dans lequel on vit, où il y a de plus en plus de personnes qui vivent de la précarité, c'est pas nouveau, mais peut-être que ça s'est accéléré, hein, particulièrement depuis quelques années, depuis la pandémie notamment. Quelle urgence tu vois pour ce genre d'activisme-là? Ou quelle réflexion tu crois qu'il est le plus important de retenir sur cette lutte-là pour la redistribution de la richesse?
Bon, ben, je vais être un downer quand même, mais moi, je ressens énormément d'urgence dans ce travail, notamment parce que je pense que ces dernières années d'augmentation de précarité a vraiment démontré l'échec du néolibéralisme par rapport au bien-être sociétal. Et je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est que notre parti centriste, les libéraux, sont toujours très attachés au récit néolibéral. Et on voit une chute dans leur popularité. Puis on voit ça, genre, partout à travers le monde, qu'il y a comme un ressentiment que le système ne marche pas. Et il y a les élites de notre société qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur attachement à ce récit que le système marche quand même bien. Et si nous, la prochaine génération de cette élite économique, si on ne réussit pas à se débarrasser de cette mythe-là, puis à soutenir les solutions socio-économiques qui pourraient vraiment comme rendre notre société plus égalitaire, alors, genre, la chute de la régime néolibéral sera remplacée non pas par un régime plus progressiste, mais par un régime fasciste.
Jonathan, tu sais que Canada Land, à la base, c'est une plateforme qui fait de la critique des médias. Et après un épisode comme ça, il y a des gens qui peuvent se demander, oui, mais est où la critique des médias? Moi, je vais push back et vous dire ceci. Ce que moi, je comprends de la conversation qu'on vient d'avoir, de tous les sujets dont on a parlé, c'est que la société est faite de nos récits individuels et collectifs. Mm-hmm. Et que ces récits-là sont notamment dans l'espace public. Mm-hmm. Et que c'est la manière dont on se raconte qui crée nos réalités politiques et sociales. Et lorsque on a des conversations, parfois difficiles, parfois sensibles, mais sur la manière dont on se raconte, sur la manière dont on s'identifie, dans la manière dont on narre notre rapport aux autres et au monde, on fait premièrement de la critique des médias par la bande.
Ouais.
Et deuxièmement, on a les conversations sur le discours public que je crois qu'on devrait avoir.
Je suis d'accord.
Donc voilà.
Merci.
C'est peut-être un des mission statements qu'on pourrait mettre de l'avant pour Détour. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X/Twitter à Canada Land ou m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
resourcemovement.org.
resourcemovement.org, c'est là que les gens peuvent s'inscrire, devenir membre,
ouais.
Hein, n'est-ce pas?
Sinon, on a un tout nouveau Instagram aussi.
Instagram.
Resource Movement.
Resource Movement. Vous pouvez aussi maintenant écouter tous les nouveaux épisodes de Détour aux 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée pour vous abonner. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.